Daniel chapitre 5. Le livre de Daniel chapitre 5. Si vous n'avez pas de Bible, écoutez bien cette histoire. Le roi Belshazzar donna un grand festin assez grand au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, certainement qu'il en avait abusé, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone : « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Le roi vit éternellement que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblables à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, au roi, l'a établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel : « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda ? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lisent cette écriture et m'en donnent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre les questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. » Daniel répondit en présence du roi, j'aime beaucoup cette réponse, « Garde tes dons et accorde un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva, et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son royaume, de son trône royal, et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme aux bœufs de l'herbe à manger, et son cœur fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, et qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots, comptée, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesée, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisée, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le maître s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Voilà une histoire assez bien connue par ceux qui lisent la Bible. Ce sont des histoires faciles à lire. D'ailleurs, c'est toujours bien lorsqu'on lit les livres des prophètes de tomber sur les récits de Daniel. On a l'impression de retrouver du livre historique au milieu. C'est une histoire qu'on visualise assez facilement. Elle est facile à comprendre. Dans une très grande cour, c'est dans le palais, mais on est certainement à ciel ouvert, le roi organise un grand festin. Alors, c'est le banquet, ça boit de tous les côtés, ça tourne peut-être à l'orgie. Enfin, c'est quelque chose, on met le comble à un moment donné au péché. Et puis voilà qu'à un moment donné, après que le roi a eu l'idée d'aller sortir les vases d'or et les coupes qui venaient du temple de Jérusalem, et il prend l'idée de s'en servir pour boire avec, qu'est-ce qu'il lui a pris ? Après cela, une main se met à écrire sur le mur de la muraille. Sur la muraille est des choses indéchiffrables, mais c'est la panique. Il change de couleur. Les jointures de ses reins se détachent. Ça veut dire qu'il s'est fait sur lui. On le comprend. Il est complètement effrayé. Il fait venir les sages. Alors les sages, ce sont les magiciens, les astrologues. Il les fait venir. Mais ils ne peuvent pas donner l'explication. La reine intervient, probablement sa mère ou sa grand-mère. Et elle lui dit, mais tu as quelqu'un qui peut donner l'explication, parce qu'elle, elle a le souvenir. Mais lui, il aurait dû s'en souvenir, je reviendrai dessus. Et elle lui dit, il y a un homme qui s'appelle Daniel, et il a déjà donné l'explication à des choses comme ça. Il est déjà intervenu, et on fait appel à Daniel. Et Daniel comparaît devant le roi lui fait la même proposition, il espère le couvrir d'or, etc. J'ai souligné la réponse de Daniel, garde tes dons, et accorde ça à un autre. Et Daniel va donner l'explication. Et l'explication sera simple, t'as été trouvé léger, pesé, Dieu va t'enlever ton règne. C'est finalement l'annonce d'un jugement qui tombe sur cet homme. C'est une condamnation qui tombe sur cet homme. Quand on lit cette histoire, on pourrait voir qu'une seule faute. Je voudrais souligner plusieurs fautes. Et je remarque que finalement, cet homme, il a fait beaucoup trop de fautes. Je voudrais regarder avec vous quelques fautes. La faute la plus évidente, celle qui nous frappe, parce qu'elle est soulignée par Daniel, qui va lui dire, tu as pris les vases d'or, tu as pris. C'est d'avoir utilisé les vases du temple de Jérusalem. C'est ce qui apparaît en premier. Et ça va faire que ça ne va pas passer du côté de Dieu. À un moment donné, il va proposer, je ne sais pas s'il manquait de coupes de boisson, de vaisselle, mais à un moment donné, il va proposer d'utiliser les coupes et les vases du temple de Jérusalem. Ces vases qui avaient autrefois un usage exclusif. Jamais un Israélite se serait permis de faire quelque chose d'autre que de s'en servir pour le temple. Et lui, ça lui prend de, voilà, d'arroser tout le monde avec cela. Et ça, c'est, excuse-moi, je vais faire un jeu de mots, mais c'est la goutte qui fait déborder le vase. Ça ne passe pas du côté de Dieu. Et Dieu dit stop, et il intervient. Je ne suis pas sûr que ce soit la faute la plus grave. Mais c'est celle qui, à un moment donné, Dieu dit stop. Et il intervient. Surtout qu'il s'est servi de ses vases. En plus, il nous est dit qu'ils se sont mis à adorer les dieux d'or, d'argent, etc. C'était, à un moment donné, Dieu dit stop. Cette attitude chez ce roi manifeste de l'arrogance. C'est une volonté, il y a une attitude blasphématoire. De la légèreté, mais plus que ça. Et Dieu intervient à un moment donné. Je voudrais dire ceci, mais parfois, enfin je voudrais dire comme ça, nous avons un Dieu qui est d'une extrême patience. On a un Dieu qui patiente. Parfois, vous avez des gens qui défient Dieu, qui blasphèment contre Dieu. Et Dieu n'intervient pas parce qu'il est patient. Il est ce Dieu qui veut sauver les pécheurs. Et il patiente. La Bible nous dit que même son retour de Jésus, quelque part, il tarde à cause de sa patience. Croyez que la patience de Dieu est votre salut. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, Dieu dit stop. Quand des fois on pousse un peu les choses trop loin, quand on dépasse certaines limites, Dieu peut dire stop. Ici, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase et Dieu a dit stop. Il y a une attitude de blasphème et Dieu est intervenu. On a un Dieu qui patiente. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait patienter Dieu et d'avoir fait. Et je me rappelle un jour, vous savez, des prédications, j'en avais entendu, des réunions comme celle-ci, j'en avais fait. Et j'avais l'impression que Dieu me poursuit. Mais je me rappelle un jour une parole de Dieu qui disait dans mon cœur, c'est la dernière fois, Joël. C'est la dernière fois, ça veut dire, je ne pousse pas le bouchon trop loin. Et c'était la dernière fois, ça m'a marqué, j'entendais ça dans mon cœur, cette voix qui résonne dans la conscience. Et là, j'ai eu peur. Et j'ai dit, j'avais usé, j'avais négocié, j'avais marchandé avec Dieu. Chaque fois, quand j'étais en pleine difficulté, je demandais de l'aide à Dieu, puis après, on repartait. Mais à un moment donné, cette voix-là, c'est la dernière fois, Joël. Et là, j'ai eu peur. Et ça a enclenché quelque part. Il a fallu d'autres choses, mais ça a enclenché un mouvement de retour vers Dieu. Et quelques temps plus tard, j'ai vraiment découvert la grâce de Dieu. Il y a une faute aussi que je voudrais souligner, une faute lourde de conséquences. C'est de faire appel aux magiciens, aux astrologues, aux devins, etc. Ce sont les personnes qu'il a appelées en premier. Alors, ils étaient appelés des sages. Il ne faut pas penser que c'était des gens stupides. C'était des gens très intelligents, très cultivés, très habiles, très puissants. Mais l'esprit qui était derrière ces hommes-là, ces astrologues, ces devins, c'était un esprit démoniaque. C'était d'origine diabolique. Et faire appel à ces gens-là, c'est toujours dangereux. Il y aura toujours un tribut tôt ou tard. Chaque fois que quelqu'un va voir un voyant, un médium, un guérisseur qui trafique dans le domaine occulte, il y aura toujours un tribut quelque part. Même s'il y a un léger mieux dans un premier temps, même si ça peut me faire du bien, même si le problème pour lequel j'y suis allé a été résolu, il y aura quelque part un tribut à payer. Il y a toujours, quand on va voir ces gens-là, il y a des choses, et à un moment donné, on est étonné de voir des manifestations bizarres dans la maison, où on a des pensées malsaines, on ne pense plus comme avant, on a des pensées qui sont un peu tordues, captives. Ça peut être un trouble intérieur, presque du trouble mental qui peut commencer à venir. Ça peut être une oppression, ça peut être des angoisses, des pensées de suicide, de l'insomnie. Mais tous les gens qui ont touché à ces choses-là, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Souvent, on se retrouve dans ces choses-là. Et vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont leur médium, comme ils ont leur psy, comme ils ont leur médecin. C'est étonnant. En plus, des fois, derrière ces gens-là, il y a des noms aujourd'hui très... Alors, soit c'est des noms un petit peu zen, soit c'est des noms qui ont presque des apparences médicales. C'est un petit peu dans ces deux couleurs. Là, il y a quelque temps, j'avais entre les mains un prospectus sur le salon du bien-être. Alors il y a plein de noms, je ne savais pas ce que c'était. Hein. Mais ça sent soit le truc charlatan, dans le meilleur des cas, soit le truc occulte. Et des fois, c'est les deux. Et c'est très à la mode aujourd'hui. Mais chaque fois qu'on y fait appel, ben, y aura un tribut. Si tu as un problème, ce n'est pas vers ces gens-là qu'il faut se tourner. C'est vers Jésus. Jésus apparu pour détruire les œuvres du diable. Je pense à ce sportif que j'ai connu et il m'a raconté son témoignage quand il est venu à l'église. Il venait juste de se convertir quand il est arrivé à l'église. C'est un joueur de foot de haut niveau. Et il me disait qu'à un moment donné, alors qu'il était en train de monter en deuxième division, je ne sais pas où, là, il y a eu un problème à la jambe. Alors, un footballeur qui a mal à la jambe. Et sa carrière était donc, il ne guérissait pas et qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a commencé à aller chez Jean-Marc, à chercher la guérison et à mettre une somme colossale pour guérir. Mais il a mis beaucoup d'argent, mais ça ne s'est jamais amélioré. Et quelque part, à un moment donné, quelqu'un lui a parlé de Jésus, il s'est tourné vers Jésus. Et je crois que la carte de foot a été mise de côté, mais par contre, cet homme a découvert la grâce et Dieu lui a fait du bien. On peut, des fois, voilà, on peut avoir un problème, on va se tourner. Il y a des fois, parfois, c'est même de manière plus dangereuse. Vous avez des gens, pour prendre la place de quelqu'un, ils vont aller voir ces gens-là. Dans le même milieu du foot, excusez-moi, je ne tire pas dessus, mais dans haut niveau. Hein. Alors, on avait sur l'assemblée quelqu'un qui est un peu la femme de maison de joueurs professionnels. Et elle nous disait, à un moment donné, la personne chez qui elle travaillait était toujours blessée. Et à un moment donné, en discutant, elle a compris que le concurrent du poste, il était en train de trafiquer pour que l'autre soit invalide et qu'il prenne la place. Vous voyez, c'est... Elle dit, mais on est dans le monde. Il y a tellement d'argent, il y a tellement... Les gens sont prêts à tout pour la gloire, le succès. Et s'il faut éliminer quelqu'un de cette manière-là, ils le feront. Mais... Il y a des conséquences, hein. Il y a un tribut derrière. Mon ami, si tu es malade, si tu as un problème, ne te tourne pas vers ces gens-là. Non seulement tu vas te faire ruiner, tu vas te faire prendre de l'argent, mais il y aura des conséquences. C'est vers Jésus qu'il faut se tourner. Jésus détruit les œuvres du diable. Jésus libère. Jésus guérit. C'est vers lui qu'il faut aller. Il y a une faute que l'on ignore aussi dans ce passage. Et pourtant, elle est importante parce qu'elle aggrave le cas de Belshazzar, le roi, hein, parce que Daniel a presque le même nom que ce roi, alors on confond un petit peu. C'est que ce n'était pas le moment de faire ça. Ce n'est jamais le moment de se livrer aux beuveries, etc. Mais encore moins, pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Il y a un contexte qui n'est pas précisé, mais nous comprenons par rapport au dernier verset. Il nous est dit que cette nuit même, le roi Belshazzar fut tué. On dit, comment ça se fait ça? Ce qui n'est pas dit, mais ce que l'histoire nous apprend, c'est que pendant qu'ils font la fiesta, la ville est assiégée par les Mèdes et les Perses. Elle est assiégée. Darius le Perse est aux portes. Mais eux, ils savent qu'ils sont dans une cité imprenable. Les forteresses sont imprenables. Et ils sont à l'abri. Mais c'est presque une attitude d'arrogance, de provocation pendant que les autres sont en train d'attendre dehors. Eux, ils se livrent à la fête, aux réjouissances. Ce n'était pas le moment. Mais l'histoire nous apprend, et on comprend que ça s'est passé, que ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, les Mèdes ont détourné la rivière qui passait dessous la muraille. Ils l'ont détournée dans la nuit, et ils se sont infiltrés dans la ville de Babylone. Et comme tout le monde était ivre dans la ville, ça a été facile pour prendre le pouvoir. En une seule nuit, Babylone, finalement, s'est effondrée. Et ce sont les Mèdes et les Perses, c'est Darius le Mède qui a pris le... Mais, vous savez, il y a un temps pour tout, dit la parole. Et il y a des fois le temps des réjouissances, d'une certaine manière. Et puis, il y a le temps, des fois, de réfléchir. Il y a le temps, des fois, de se poser. Là, on n'est plus le temps des vacances. C'est le temps de la rentrée. Il y en a, ils sont pas très enthousiastes, hein. Mais c'est le temps de la rentrée. Mais j'ai envie de dire, des fois, c'est plus le temps de s'amuser, c'est le temps de rentrer en soi-même, le temps de réfléchir sur sa propre vie, le temps de la mettre à la lumière, le temps de considérer sa vie. Et cet homme, au lieu de se ficher, ce Belshazzar, il aurait mieux fait de dire, mais c'était peut-être l'occasion d'être assiégé, de se dire, mais il y a peut-être un Dieu qui peut m'aider, est-ce que c'est pas le moment de faire le bilan? C'était quand même le moment de faire le point. Mais plutôt que ça, il y a une attitude d'arrogance, de mépris. La Bible nous dit que quand Jésus reviendra, les gens mangeront, buveront, se marieront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'occuperont des choses de la vie, le train-train, toutes les... Mais les choses de Dieu, pouf, on ne s'en occupera pas. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et c'est vrai que il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour les choses d'en bas. Mais à un moment donné, il faut s'occuper de son âme. Hein. À un moment donné, il faut réfléchir et donner du sens à sa vie. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions et dire, mais là, il doit se passer quelque chose dans ma vie. Peut-être le temps pour quelqu'un de dire, Seigneur, je veux prendre de la profondeur. Je veux que tu atteignes mon cœur, tu me transformes. Il y a aussi une autre faute que je voudrais souligner. Elle est peut-être, c'est peut-être la plus profonde. Pour moi, c'est la plus grave. C'est de se croire meilleur que ceux qui nous ont précédés. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis cette histoire et je vois l'intervention de la reine-mère, de la mère, de la grand-mère, je ne sais pas trop. Mais je comprends, je perçois qu'elle est un peu exaspérée par l'attitude de ce roi. Elle intervient quand même publiquement, hein, pour lui faire la leçon, quoi. Et d'ailleurs, Daniel lui dira, mais tu le savais, ces choses-là. Il devait le savoir. Il aurait dû s'en souvenir. Quand il est devenu roi, il savait, il connaissait l'histoire, il y avait des annales. On voit dans d'autres passages qu'on entretenait cela. Et la reine va intervenir et va lui rappeler l'histoire. Elle va dire, mais ton père, ou ton grand-père en fait, hein, son père, c'est l'aïeul, c'est grand-père. Le grand-père, c'était Nebuchadnezzar. Il y a au milieu un roi qui n'est pas mentionné, le roi Nabonide, mais qu'on ne voit pas, hein, il n'apparaît pas. Mais son grand-père fut un monarque, il a dominé le monde, connu de l'époque. C'est lui qui a donné ce rayonnement à Babylone. Et lui, il arrive derrière, il dit, moi je vais faire mieux. Et ce roi Nebuchadnezzar a dominé, a commis des erreurs. Mais si vous lisez Daniel chapitre 4, il a fait une expérience déterminante avec Dieu. Quand on lit Daniel 4, on a même l'impression que ce roi s'est converti. Alors, je ne sais pas si on peut parler de conversion à cette époque, comme ça. Mais cet homme a reconnu la supériorité de Dieu, la domination de Dieu, qu'il faut adorer Dieu. Enfin, il y a vraiment un changement dans sa conscience. Il s'est passé quelque chose. Et lui, il arrive derrière, il raye tout, il balaye. Vous allez voir de quoi je suis capable. On a l'impression qu'il veut tirer un trait sur le passé et faire comme si tout cela n'avait rien existé. Daniel, il aurait dû savoir qui c'était. Vous avez vu comment il lui parle? Il le ramène, il le traite, il lui rappelle bien que c'est un captif déporté de Juda. Vous voyez, sans même une remarque antisémite. Hein, ça passait pas, quoi. Hein. Et puis, quand Daniel va lui parler, Daniel lui dira, et ça, cette phrase, elle est très importante. « Et toi, Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches ces choses. » Cet homme connaissait l'histoire. Il connaissait l'expérience de son grand-père. Il savait ce que ce grand-père avait. Et plutôt que d'en tirer profit, vous savez, des fois, au lieu d'aller dans un mur, c'est bien d'apprendre des erreurs des autres. Et plutôt que, il est passé par-dessus. Quoi que tu saches toutes ces choses. Ce roi connaissait toute l'histoire, mais il n'en a pas tenu compte. Il s'est cru intouchable. Il a cru qu'il ferait mieux que les autres. Si tu sais que la Bible déclare que tous les hommes sont pécheurs, que tu fais, responsable. Si tu sais que le salaire du péché, c'est la mort, tu dis, mais Dieu, il est trop bon pour envoyer en enfer. T'es responsable. Si tu sais que Dieu a donné sa vie sur la croix pour toi, il est mort pour que tu sois sauvé, et toi, tu dis, mais tu piétines ça, ça t'intéresse pas. dire, c'est plutôt qu'on ferme son cœur à ce message-là, on ne veut pas entendre ça. Dire, on croit, voilà, ça c'est pour certains, c'est pour les faibles, c'est pas. C'est grave. Et c'est ce qu'a fait ce roi. Ce roi, il aurait pu en savoir, mais il a tout mis de côté. Quoi que tu saches ces choses-là. Et je crois que ça, c'est quelque chose. Si tu connais l'Évangile, si tu l'as entendu à un moment donné, il faut le laisser pénétrer et le laisser changer ton cœur. Il y a encore deux autres erreurs que je voudrais souligner. La faute la plus courante, c'est de croire que tout s'achète. Le roi va dire à deux reprises, on sent que c'est... Il le dira au magicien et il le dira à Daniel. Celui qui donne l'explication, je le revêtirai de pourpre, je lui donnerai un collier d'or et il aura la troisième place dans son royaume. Et il le dit à deux reprises, exactement de la même manière. On sent que c'était sa manière de fonctionner. Hein. Et que tout s'achetait chez lui. Et c'était comme ça. Et comme je l'ai souligné, j'aime beaucoup la réponse de Daniel. Garde tes dons et accorde tes présents à un autre. Daniel, on l'achète pas. Mais on sent que chez cet homme, ça marchait comme ça. Tout se payait, tout s'achetait. Et ça, c'est une erreur. Dans notre société, dans notre monde, il y a des choses qui s'achètent. Il y a beaucoup de choses qui s'achètent. Même des choses qui ne devraient pas. Mais il y a une chose qui ne s'achètera jamais. C'est la porte du cœur de Dieu. C'est la porte du ciel. La porte de Dieu, la porte du cœur de Dieu, elle ne s'ouvrira qu'avec la foi en Jésus. Elle ne s'ouvrira qu'en tournant nos yeux vers lui en disant, Seigneur, je suis un pécheur. Mais jamais avec de l'argent. Et là, c'est une erreur courante, mais une erreur qui maintient dans l'aveuglement. Et puis, la dernière faute que je voudrais souligner, et finalement, c'est sa dernière à lui. Daniel lui dit, ton royaume a été pesé, il va être donné aux Mèdes aux Perses. Et lui, il fait, ah, super, allez, je te couvre d'argent. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il aurait dû se repentir. Il aurait dit, mais secours-moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Viens à mon aide. Mais Daniel vient de lui dire des choses extrêmement graves. Il lui prédit la fin de son règne. Et lui, il lui donne la troisième place, mais la règne qui va bientôt finir. Mais on a l'impression qu'il veut faire ça pour sauver la face, mais il n'a rien compris. Il est complètement aveugle. C'est une parole de jugement qu'il lui a lancée. Et ce qu'il aurait dû faire, c'est se repentir. De dire, je suis un pécheur. Il aurait dû se jeter à genoux, mais dire, viens, mon secours, on arrête tout ça, on se met à genoux, que Dieu nous fasse grâce. Ils auraient dû, c'était tellement fort ce qui s'était passé, ils auraient dû se mettre à genoux. Et c'était presque, allez, on couvre d'or et on continue, quoi. Ouais, c'est quelque chose de grave. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit parle à notre cœur et met le doigt sur notre péché, c'est pas le moment de des fois de louer Dieu, hein. Ou même de... Il y a des moments, c'est le moment de mettre son cœur à lui dire, Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce. C'est une histoire dramatique qu'on a là. Quand je pense à cette histoire, je me rappelle toujours que notre vie, c'est un compte à rebours. On ne connaît pas le zéro. Hein. Là, on était au jour 1, 0, au dernier jour. Et avec du recul, on se dit, mais c'est dramatique. Et c'est dramatique de voir la réaction de cet homme, de ne pas se repentir de ses péchés. Je termine simplement en disant ceci. Notre vie, elle sera aussi un jour pesée. Elle sera comptée, divisée non, mais jugée. Et je ne sais pas ce que vous espérez mettre dans la pesée ou dans les comptes. Et si vous espérez mettre vos bonnes œuvres, votre moralité, vos bonnes intentions, vos efforts religieux, vos souffrances méritoires, tout ça, ça vaut rien. Tout ça, ça ne vaut rien du tout. Ça n'ouvre aucune porte. Mais ce qu'il faut mettre dans la pesée, c'est un cœur qui dit, Seigneur, je suis un pécheur. Mais je crois que Jésus a donné sa vie sur la croix pour moi. Je crois que Dieu s'est fait homme et qu'il est venu prendre ma place sur le bois de la croix. C'est ce qui compte. C'est ce qui va peser. La foi dans la personne de Jésus. La Bible nous dit que, vous savez, l'or c'est précieux. La Bible nous dit que la foi, elle est plus précieuse que l'or. La Bible nous parle du sang précieux de Jésus. Voilà ce qu'a de la valeur. Voilà ce qu'il doit y avoir dans votre cœur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Et peut-être que quelqu'un s'est retrouvé dans ces fautes qui ont été commises. Peut-être quelqu'un s'est dit, moi c'est vrai que j'ai tendance à tout acheter. Mais c'est une erreur. Peut-être que quelqu'un a des fois méprisé, a cru qu'il ferait mieux que les autres. Mais il faut reconnaître un jour son péché.